C'est le 23 novembre 2018. Ça va vite. Dans un peu plus d'un mois, un peu moins d'un mois, ce sera le réveillon de Noël. Comment allez-vous en cette journée encore très, très froide, mais on prévoit une semaine très douce? Alors, il y en aura pour tous les goûts. Paraît-il que la neige, celle de Montréal en tout cas, va disparaître à cause de la pluie. Et c'est Hélène Denis qui vous accompagne et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. Devant moi, c'est le mois de novembre encore, un revenant.
Ben, oui, c'est...
Mathieu,
ben,
t'es oui. Ici. Ça fait tellement longtemps, je me souviens pas à quand en ça fait, remonte votre collaboration
fin de
avec
l'été,
moi.
Si je me souviens bien.
Fin de...
En fait, j'ai donné un gros coup de main du côté des livres.
Oui.
Donc,
vous n'étiez pas en année sabbatique
non,
ou en semi-année sabbatique.
Non, j'étais très occupé et voilà.
Et je peux en témoigner parce que je vous ai vu travailler comme une abeille. Mais c'est bien
content.
De vous avoir.
Ben oui.
Ben oui, vous adorez faire de la radio. Surtout avec moi.
Ça, oui, c'est oui, moi oui, qui oui, le dis.
Non, je sais que ça va bien avec tout le monde. Vous êtes très apprécié, mon cher Mathieu. Alors, est-ce que vous avez préparé des éphémérides en
oui,
ce 23 novembre?
En fait, ce n'est pas une journée thématique le 23 novembre. Donc, je peux passer directement aux éphémérides. Le 23 novembre 1617, un premier mariage d'Européens a lieu en Nouvelle-France. En 1809, à Halifax, Edward Jordan est pendu pour piraterie. Son corps goudronné est exposé à l'entrée du port. En 1815, brûlant de l'huile de baleine, les premiers lampadaires sont mis en service à Montréal.
Le corps goudronné, ensuite
oui,
on brûle.
C'est thématique.
Oui, c'est ça.
En 1837, à Saint-Denis-sur-le-Richelieu, les rebelles patriotes battent la troupe britannique. En 1877, les États-Unis versent au Canada 5,5 millions de dollars pour le droit de pêche et la libre navigation sur le Saint-Laurent. 1890, après la mort du roi néerlandais Guillaume III, le Luxembourg est séparé des Pays-Bas. Le ténor Enrico Caruso débute à New York dans Rigoletto de Giuseppe Verdi en 1903. Henri Luce, en 1936, publie le premier numéro de l'hebdomadaire Life. En 1963, diffusion du premier épisode de la série Doctor Who, An Unearthly Child au Royaume-Uni. 1970, parution du premier numéro du journal satirique français Charlie Hebdo. Et en 1995, la télévision anglaise de Radio-Canada renonce aux productions américaines durant les heures de grande écoute.
Et pour ça a bien changé depuis le
oui.
temps.
Et pour ce qui est des naissances, le mythique Boris Karloff, monstre dans Frankenstein, né en fait Charles Edward Pratt, est né le 23 novembre 1887. Clémence Desrochers, humoriste, actrice, scénariste et chanteuse québécoise.
Ah, c'est pour ça que vous avez fait jouer une
entre
chanson
autres,
un petit peu plus tôt.
Voilà.
On parlait de vieillesse et vous avez fait tourner Les Deux Vieilles, une chanson très, très touchante.
Très belle, oui.
Ouais.
Qu'on n'entend pas si souvent. Clémence Desrochers, on l'entend pas beaucoup.
Elle s'est pas mal retirée. Là. Elle a 80 ans et plus. Elle a quel âge aujourd'hui?
1933.
Bon, 85.
Vous êtes plus rapide que moi en calcul.
Bonne fête, Clémence.
Merci. Et Francis Cabrel, chanteur français, 1953. Et pour ce qui est des décès, le regretté Philippe Noiret nous a quittés en 2006, lui qui était né en 1930. Et Roald Dahl, le romancier
ah, oui.
britannique qui était né, lui, en 1916, nous a quittés le 23 novembre. 1990.
Alors, si mes calculs sont encore bons, Cabrel a 65 ans aujourd'hui, mais lui, je pense pas qu'il va prendre sa retraite.
Non,
même si c'est l'âge dit officiel.
Liberté 55.
Non, il n'y a pas 55, il y a 65.
Non, je sais
Liberté
bien.
55, ça, c'est une légende urbaine. Merci, Mathieu.
Ça fait plaisir.
En une de la presse, une exclusivité, Laurentide, des déversements illégaux resteront impunis. Après un premier revers au printemps, le DPCP échoue de nouveau à traîner des pollueurs allégués devant la justice. Pendant ce temps, un rapport déposé devant le tribunal révèle que la pollution sur le site de réception pourrait entraîner des déformations chez les animaux des Laurentides. La chronique de Rima El-Khoury, La mécanique du sexisme. Une autre exclusivité, Commission des droits de la personne, Québec veut destituer Tamara Termitus, un cas grave de mauvaise gestion, révèle une enquête du Protecteur du citoyen. Et cinéma, 18 films pour finir avec 2018. 18 films pour en finir avec 2018. Alors, des déversements illégaux resteront impunis. C'est fini après des années d'enquête. L'ultime tentative pour imposer ne serait-ce qu'une amende à deux entreprises accusées de déversement illégal de sols contaminés vient d'avorter, car la Couronne a été incapable d'agir dans un délai raisonnable. Pendant ce temps, la terre est devenue tellement polluée sur le site de réception que les experts craignent l'apparition d'animaux difformes dans les Laurentides. Depuis des années, la Sûreté du Québec et le ministère de l'Environnement enquêtaient sur plusieurs entrepreneurs, dont un ancien associé des Hells Angels, qui aurait pris en charge des sols contaminés sur des chantiers du Grand Montréal et qui les aurait déversés illégalement à la campagne. La police voulait passer les menottes aux responsables. Mais en juin dernier, la presse révélait que le directeur des poursuites criminelles et pénales avait renoncé à porter des accusations criminelles contre les suspects. Même si des dizaines de sites naturels et de terres agricoles avaient été pollués, les procureurs de la Couronne s'estimaient incapables de faire condamner des accusés dans un procès criminel où le fardeau de la preuve est très élevé. L'affaire avait provoqué un tollé. Même la ministre de l'Environnement avait exprimé sa déception. Mais qu'à cela ne tienne, il restait au moins un plan B, la possibilité d'imposer des amendes aux entreprises en vertu d'un règlement environnemental. Un porte-parole du DPCP s'était empressé de souligner que pendant l'enquête, deux constats d'infraction avaient été émis en vertu du règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Les contrats d'infraction remis le 3 mars 2017 prévoyaient une amende minimale de 30 000 $ pour les entreprises gestion OFA, environnement et Remblai ATL. Les deux étaient accusés d'avoir déversé trois chargements de terre contaminée sur un terrain agricole de Sainte-Sophie, dans les Laurentides, le 25 mai 2016. Un procès à ce sujet s'est amorcé en août dernier à Saint-Jérôme, plus de 2 ans après les faits et plus de 17 mois après la remise des constats. Policiers, employés du ministère de l'Environnement, experts en contamination et chauffeurs de camions sont venus témoigner, jusqu'à ce que tout s'effondre. Mercredi dernier, le juge Claude Lachapelle a ordonné l'arrêt du processus judiciaire en vertu de l'arrêt Jordan qui fixe un plafond de 18 mois pour la durée raisonnable d'un procès en cours du Québec. Le juge a fustigé la gestion défaillante du dossier par le DPCP, qui a laissé traîner l'affaire et qui est allé jusqu'à changer le procureur responsable du dossier 3 jours à peine avant le procès. Des propos jugés sexistes à l'Hôtel de Ville, un conseiller municipal de Montréal a présenté hier ses excuses pour des propos très malhabiles tenus lors d'une rencontre publique à l'Hôtel de Ville. L'élu Richard Gay a suscité un malaise en félicitant une collègue pour ses connaissances pointues pour une femme. Lors de l'étude publique du budget 2019 de la Société de transport de Montréal, Richard Gay, d'Ensemble Montréal, dit avoir voulu souligner la qualité des questions de la conseillère Lisa Christensen, de Projet Montréal, mais son choix de mots en a choqué plusieurs. « Pour une femme, hein, une mécanicienne, bravo », a dit Richard Gay. « Pour une femme », s'est aussitôt étonnée Mme Christensen. « Pour toutes vos connaissances », a-t-il dit avant de changer de sujet. Jugeant la remarque sexiste, la conseillère Laurence Lavigne-Lalonde de Projet Montréal a rapidement dénoncé les propos de son collègue, les qualifiant de complètement déplacés. En fin de séance, Richard Gay a tenu à présenter ses excuses, disant regretter son choix de mots. « Mes propos ont été très malhabiles. Je m'en suis excusée à Mme Christensen et à Mme Lavigne-Lalonde. » Une coroner recommande de s'inspirer du tabac. Avertissement en gros caractères et publicité limitée, les gouvernements devraient s'inspirer du tabac pour encadrer les boissons énergisantes, suggère une coroner qui a fait enquête sur un jeune homme qui est mort après avoir consommé 2 canettes de Red Bull. Zachary Mitchell, 21 ans, portait sans le savoir un gène favorisant l'arythmie cardiaque. Cette prédisposition conjuguée à la consommation de boissons énergisantes est probablement la cause de son décès survenu dans un lac de l'Outaouais à l'été 2016, selon la coroner Pascal Boulet. « Monsieur Mitchell, si ça n'avait pas été de ça, il ne serait pas mort », a-t-elle affirmé en entrevue avec la presse. « Il y a des risques qui sont associés à ces boissons et ces risques-là, je ne crois pas qu'ils soient bien connus. » La coroner estime que les avertissements qui apparaissent actuellement sur les canettes sont trop petits et que les campagnes publicitaires axées sur le sport posent problème. L'Association pour la santé publique du Québec a applaudi des deux mains. Le groupe voudrait aussi que la vente de ces produits soit interdite aux mineurs. « On va toujours refuser les comparaisons avec le tabac », a répliqué Martin-Pierre Pelletier, porte-parole de l'Association canadienne des boissons à la suite du message laissé chez Red Bull. « On ne peut pas comparer un produit sans danger avec un produit qui a des dangers ». Et au sujet des boissons énergisantes, on observe de plus en plus de cas de jeunes qui sont dépendants à la caféine, déplore Émilie Dansereau de l'Association pour la santé publique du Québec. Elle déplore que les boissons énergisantes ciblent les adolescents et les jeunes adultes. Il faut encadrer le marketing sans l'ombre d'un doute. Santé Canada a indiqué que ses fonctionnaires étudiaient le rapport. Record de postes vacants au Québec. On comptait en moyenne 116 440 postes à pourvoir au Québec au deuxième trimestre de cette année, en hausse de près de 40 % comparativement à la même période en 2017, indique l'Institut de la statistique du Québec. L'agence indique que le taux de postes vacants, le nombre de postes à pourvoir exprimé en pourcentage de la demande, a été de 3,2 % au Québec durant cette période, ce qui est similaire au taux moyen du Canada, mais aussi à ceux de l'Ontario et de l'Alberta. Les postes à pourvoir au Québec se retrouvaient principalement dans les secteurs de la fabrication, du commerce de détail, des soins de santé et de l'assistance sociale, ainsi que des services d'hébergement et de restauration. Les professions les plus demandées, serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé. Thaïlande, l'afflux d'offrandes sucrées rend les moines obèses. Chaque jour, des milliers de moines bouddhistes font la tournée des offrandes à travers la Thaïlande. Les boissons sucrées et gâteaux industriels qu'ils récoltent les rendent souvent obèses, un phénomène devenu un vrai problème de société dans leur royaume. Avant de venir ici et de me mettre au régime, je pouvais à peine marcher 100 mètres sans me sentir fatiguée, explique Pipit Sarakitwinon, venu faire un check-up dans un hôpital spécialisé dans le traitement des moines. Il se réjouit d'être passé de 180 à 150 kilos depuis le début de l'année. La tradition de faire des offrandes en nature aux moines est très ancrée en Thaïlande, mais aussi en Birmanie ou au Cambodge voisin, où les statues de Bouddha le montrent joufflu. Mais la classique obole de riz s'est transformée en panier de malbouffe, des chips aux boissons énergétiques, dans ce pays où les scandales de moines vivant grand train ou détournant de l'argent à des fins personnelles n'ont pas découragé les fidèles de leur faire des dons, considérés comme de bonnes actions, portant chance.
Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear, since I can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long time. Haven't felt like this, my dear, since I can't remember when. It's been a long, long time. You'll never know how many dreams I dreamed about you, or just how empty they all seemed without you. So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time.
Me once que nous chantait Harry Lillis Bing Crosby.
Très belle chanson, beau choix. En une du Devoir de ce 23 novembre, démolie en catimini. La maison Boileau, rare témoin de l'histoire des Patriotes de 1837-1838, a été démolie jeudi matin par deux pelles mécaniques et des employés de la ville de Chambly. Le ministère de la Culture et de Communication a déploré vivement cette démarche, tout en rappelant qu'il avait offert à la ville en 2016 de subventionner une part importante de sa sauvegarde. Francophonie, Bastarache lance un appel au combat juridique. Les coupes du gouvernement Ford dans les services aux francophones mériteraient d'être contestées devant les tribunaux, estime Michel Bastarache, ancien juge à la Cour suprême et spécialiste des droits linguistiques. Une option que les Franco-Ontariens gardent pour le moment dans leur manche. L'ancien juge à la Cour suprême estime que la cause franco-ontarienne contribuerait à développer le droit linguistique. Rat de bibliothèque et non rat de bibliothèque, un colloque révise l'histoire des bibliothécaires du Québec et on voit une photo absolument charmante, Hélène Grenier, bibliothèque Plateau en 1946, une photo en noir et blanc tirée du fonds Conrad Poirier, BANQ. Économie, Ottawa va forcer un retour au travail chez Poste Canada. La chronique de José Blanchette, prendre son mal en patience. Et sport, Éric Gay, le skieur le plus médaillé du Canada, prend sa retraite. Et en une également, l'opposition dénonce l'aide aux médias des libéraux. L'élection fédérale n'est que dans un an, mais déjà les partis d'opposition laissent planer un doute sur la légitimité des résultats. Tant l'aide aux médias que l'organisation des débats des chefs sont vus comme des tentatives libérales de truquer les élections. Les conservateurs laissaient entendre depuis une semaine que le gouvernement libéral s'apprêtait à s'acheter une couverture médiatique complaisante en venant en aide à l'industrie médiatique. Le ton est monté jeudi au lendemain de l'annonce officielle de ces crédits d'impôt et reçus d'impôts qui totaliseront 595 millions de dollars sur 5 ans. Tour à tour, des élus conservateurs ont martelé aux communes que Justin Trudeau soudoie les médias. Le sénateur Claude Carignan se dit en complet désaccord. « C'est tellement ridicule », lance-t-il en entrevue. « Je fais confiance au professionnalisme des organes de presse et je ne pense pas que ça va influencer un média ou un journaliste. L'aide aux médias est au contraire trop minime, selon lui, et le gouvernement devrait en faire davantage. » Car cet ancien maire de Saint-Eustache affirme que les médias régionaux sont essentiels à la vie communautaire de petites localités. Ce questionnement me semble court et camoufle surtout une volonté de non-action, a même dénoncé le sénateur dans une réaction écrite à l'annonce fédérale. Le journal Le Devoir prêtera main forte à l'Institut du journalisme d'enquête de l'Université Concordia pour mener une enquête d'envergure nationale aux côtés de 7 autres médias et plusieurs départements universitaires de journalisme au Canada. Aujourd'hui, plus que jamais, les médias ont un rôle crucial à jouer dans la sauvegarde de notre démocratie, soutient de son côté le directeur du Devoir, Brian Miles. En unissant leurs forces, non seulement les universités et les médias d'information partenaires soutiennent le travail des journalistes, mais il prépare aussi les étudiantes et les étudiants à évoluer dans les salles de nouvelles de demain, et ce, tout en proposant aux Canadiennes et aux Canadiens des reportages approfondis d'intérêt public, se réjouit de son côté Patty Sontag, directrice de l'Institut du journalisme d'enquête. Le sujet de l'enquête 2018-2019 demeure pour le moment confidentiel, mais sera d'une envergure sans précédent au Canada, assure l'Institut, précisant qu'une centaine de collaborateurs apportent déjà leur soutien au rédacteur en chef du projet, le journaliste d'enquête Robert Cribb. Deux rectificatifs. La légende de la photo publiée en Une le 22 novembre hier identifiait de façon erronée Leslie Guillaume. Il s'agit plutôt de Nathaniel Bazelet, toutes nos excuses. Et un autre rectificatif, je vous les mentionne parce que je vous ai lu ces nouvelles-là hier. Le titre du texte « Doug Ford, désavoué par sa seule députée francophone » publié en page A2 le 22 novembre était erroné. Amanda Simard est plutôt la seule députée franco-ontarienne du Parti progressiste conservateur. Les 50 étages du projet immobilier Maestra, qui doit voir le jour sur le site de l'ancien Spectrum, respectent peut-être les règles d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie, mais le dossier devra être analysé par le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, avant d'être approuvé par la Ville, a rappelé l'administration de Valérie Plante jeudi. Le cabinet de la mairesse s'est étonné des stratégies de marketing des promoteurs qui ont dévoilé les détails de leur projet sans même l'avoir soumis à l'arrondissement. C'est un stunt publicitaire, estime Robert Baudry, responsable du développement économique au comité exécutif, tout en reconnaissant que dans certains secteurs, les édifices de 50 étages sont autorisés. Ce n'est pas anormal que les élus ne soient pas encore informés du projet, rétorque Serge Goulet, président de Devimco Immobilier. Avant qu'un projet aboutisse sur le bureau de la mairesse ou des élus, il y a beaucoup de travail fait avec les fonctionnaires à l'urbanisme et au permis. Devimco Immobilier, qui a réalisé le quartier 10-30 et mis en chantier le complexe résidentiel du site de l'ancien hôpital de Montréal pour enfants, s'est associé au Fonds immobilier de solidarité FTQ et à Fiera Immobilier pour réaliser le projet du Maestra qui comportera 1500 unités résidentielles, dont le tiers seront offertes sur le marché locatif. Le terrain situé en plein cœur du quartier des spectacles était vacant depuis la fermeture et la démolition du Spectrum il y a 10 ans. Un projet mixte de commerce et de bureaux avait été évoqué à l'époque, mais il ne s'était jamais concrétisé en raison de la crise financière. Le Fonds immobilier de solidarité FTQ a finalement acheté le terrain en 2011. Les promoteurs présentent le Maestra comme un projet phare de 700 millions, le plus important à être réalisé dans le quartier des spectacles. Situé sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues de Bleury et Jeanne-Mance, les deux immeubles de 51 et 53 étages auront une vue imprenable sur la place des festivals. Des terrasses sont d'ailleurs prévues au 25e étage et une passerelle vitrée reliera les deux tours. On voulait des tours effilées, question d'ensoleillement et design, mais pas des tours jumelles. On a l'impression que ça ne porte pas chance, explique Serge Goulet. L'émissaire de l'ONU, Martin Griffiths, a rencontré jeudi le dirigeant rebelle à Sana'a avant d'aller à Hodeida, principal front de la guerre au Yémen, avec l'objectif d'obtenir une véritable accalmie avant les consultations de paix prévues début décembre en Suède. La visite de M. Griffiths aujourd'hui à Hodeida, aux mains des rebelles et en proie à un calme précaire, sera l'occasion d'un appel à une accalmie en pleine préparation des discussions de paix en Suède, a déclaré une source de l'ONU. Vital pour l'acheminement des importations et des aides au Yémen, la cité portuaire illustre à elle seule la complexité de ce conflit qui a fait quelque 10 000 morts depuis près de 4 ans et provoqué la pire crise humanitaire au monde. Le Fonds de travailleurs Fonds d'action annonce la suspension de ses opérations pour vendredi par mesure de précaution en raison d'une intrusion informatique survenue dans ses systèmes durant la nuit de jeudi. Fonds d'action a dit par communiqué déployer tous les efforts nécessaires afin de rétablir son environnement informatique dans les plus brefs délais. Des services d'experts en technologie réputés ont été retenus, a-t-on précisé. Selon le Fonds d'investissement affilié à la Confédération des syndicats nationaux, rien ne permet pour le moment de conclure que des données personnelles, notamment relatives aux actionnaires et aux entreprises, ont été obtenues ou téléchargées par des personnes non autorisées.
Vous écoutez Le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis.
Sur NDG. nostalgie. C'est pas une souffrance, c'est pas un malheur. Juste un cœur immense qui cherche toujours sa chaleur.
De Paul Carniello qui chante en duo avec Sarah MK, Il neige.
Il neige et il pleuvra bientôt puisqu'on prévoit du temps plus doux dans les prochains jours. En une du Journal de Montréal, cette fois en ce vendredi, une auto qui fait pitié, des centaines de voitures découpées ou exportées, volées à l'aéroport. Ça occupe presque la page au complet du Journal de Montréal, et en haut, ébranlé par la blessure d'un coéquipier, Éric Gay accroche ses skis. La police vise un réseau de vols de voitures près de l'aéroport. Après des mois d'enquêtes, de perquisitions et de filatures, les détectives de l'équipe Réseau, une escouade spécialisée mise en place pour lutter contre les vols d'auto, ont frappé à 4 endroits et épinglé 8 suspects hier. Le réseau volait des véhicules de grand luxe pour les transporter à l'extérieur de l'île de Montréal pour les maquiller ou les découper en pièces détachées, explique Pascal Leclerc, commandant des enquêtes de la division Ouest du service de police de la ville de Montréal. Ils auraient dérobé au moins une 50aine de véhicules depuis que les policiers ont lancé le projet Oblitéré. À Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides, les policiers ont investi un garage du rang du Très Carré, soupçonné d'être la base de l'organisation. Ils y ont saisi automobiles et pièces détachées. Le kit du parfait cambrioleur comprend maintenant ordinateur, portable, brouilleur de GPS et programmeur de clés électroniques, ne laissant pas de traces sur l'automobile. On est loin de l'époque des cintres et des pieds de biche pour déverrouiller les portières. Avec l'aéroport Montréal-Trudeau et les stationnements d'hôtels sur leur territoire, le problème des vols d'auto a toujours été dans le collimateur des enquêteurs de la division Ouest. Mais les récentes opérations Odomètre Océan, qui ont contré un réseau d'exportation de véhicules volés à l'étranger et maintenant oblitérés, ont permis de réduire le nombre de larcins de 76 % dans ce secteur chaud au cours des derniers mois, se réjouit le commandant. Même s'ils n'ont pas le nombre requis de députés, le Parti québécois et Québec solidaire bénéficieront des avantages d'un parti officiellement reconnu à l'Assemblée nationale. Manon Massé et Pascal Bérubé auront également leur voiture de fonction, un budget pour embaucher des employés, un droit de parole à la période des questions et un droit de vote en commission parlementaire, là où on concocte les lois. Voilà en gros ce que les péquistes et solidaires ont obtenu au terme de rudes négociations avec le gouvernement Legault et l'opposition libérale. Une entente de principe est intervenue hier soir. Une voiture de fonction ou limousine, dans le jargon parlementaire, est également mise à leur disposition. Notons qu'il s'agit généralement d'une mini-fourgonnette Toyota Sienna. La chronique de Lise Ravary intitulée « Vendredi débile, le Black Friday américain a pris racine au Québec, rebaptisé « Vendredi fou ». Je ne blâme pas les commerçants, mais était-il nécessaire de transplanter ici cette orgie de magasinage quand la gourmandise des consommateurs représente le principal défi écologique de notre temps? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. J'ai longtemps été une chopaholique, alors une... Chopaholique, c'est une alcoolique du shopping. Vêtements, chaussures, sacs, livres, disques, bidules pour cuisiner, parfums, je ne pouvais sortir sans revenir avec du neuf. J'ai eu une prise de conscience quand mon amie Marie m'a demandé « As-tu déjà essayé de rentrer à la maison sans un sac au bout du bras? » Vivre à la campagne depuis 2 ans, mon pacte écologique à moi, m'a fait réfléchir à la consommation. Plus besoin de costumes italiens pour travailler ou d'auto allemande pour épater la galerie. Mais surtout, j'ai acquis le réflexe de me demander « réparer ou remplacer ?» Pour célébrer le Vendredi fou, chérie et moi allons recouvrir les chaises en cuir de la salle à manger au lieu d'en acheter des nouvelles, des pots, quelques rivets, et c'est fait. Ce sera plus cher que les chaises en cuir « made in China » à 50$ en solde pour le Vendredi fou, mais économiser n'est pas l'objectif premier. L'hyperconsommation est au cœur de nos déboires écologiques. Imaginez l'empreinte de carbone pour fabriquer et expédier les gugus dans les magasins à 1$. De même, qui va régler la note environnementale pour un meuble payé 50$ et qui a voyagé 11 342 km avant d'atterrir au Québec? Imaginez le vrai coût. Or, quand il y a déficit, c'est la planète qui paye. Les Français ont créé l'opération Green Friday, et oui, Green Friday par les Français, une opposition écologique au Vendredi noir. Une bonne idée, mais qui serait encore meilleur sous le nom Vendredi vert? Non. Voilà pour la chronique de Lise Ravary. Des records de froid ont été enregistrés pour Montréal au cours des 2 derniers jours, mais la neige et la température glaciale pourraient être chose du passé dès lundi. Cette vague de froid fera place à des températures plus proches des normales de saison qui sont d'environ 4 degrés Celsius le jour et entre moins 5 degrés Celsius et moins 6 degrés Celsius la nuit. Dès aujourd'hui, on annonce des températures d'environ moins 5 degrés Celsius alors que la fin de semaine sera plus chaude. Environnement Canada prévoit un mercure maximum de 1 degré pour demain et de 5 pour la journée de dimanche. Aussi, de la pluie est prévue dans la nuit de demain à dimanche et pendant la journée de lundi. Les accumulations pourraient être de 15 mm et ainsi effacer toute la neige au sol. Les températures resteront relativement douces et près des normales de saison pour le restant de la semaine. Lise Ravary serait fière d'eux, ils passent leur vendredi fou à réparer des électros. Des bénévoles ont décidé de faire un pied de nez au vendredi fou aujourd'hui en réparant gratuitement lampes, grille-pain, cafetières et autres objets désormais plus faciles à acheter aux poubelles qu'à remettre en état. La Shop à réparer, qui se tiendra à Trois-Rivières pour la première fois, réunira une 20aine de bénévoles exaspérés par la surconsommation qu'ils jugent encouragée par les rabais du vendredi fou. Il y aura parmi eux un technicien en électronique, un informaticien, un concepteur en génie électrique, un professeur de physique doué en informatique et quelques grands-mères auxquelles les fermetures éclairs ne résisteront pas bien longtemps. Notre activité permet de réaliser que nos choses ne sont pas vraiment finies, qu'on peut les réparer et leur donner une plus longue durée de vie, explique le chargé de projet à environnement Mauricie Thierry Archambault, La Liberté. Il souhaite que ce type d'initiative gagne en popularité à travers la province pour briser le cycle du gaspillage. La chope à réparer est d'abord une initiative environnementale, mais se tiendra dans un des quartiers les plus pauvres de Trois-Rivières pour donner un coup de pouce aux gens à faible revenu.
Monsieur Gobeil s'en va travailler le matin. Que c'est bien, oh que c'est bien de voir Monsieur Gobeil quand je reviens de gagner ma vie. Que c'est bien, que c'est bien. Travaille sur chiffre de nuit. Quand Monsieur Gobeil dit bonjour à sa femme, que c'est bien, que c'est bien de voir nos fenêtres se fermer ensemble. On peut faire l'amour en arrivant ou avant de s'en aller. Je t'aime. Je t'aime. Quand Monsieur Gobeil attend Monsieur Blot le matin, que c'est bien, que c'est bien de les voir sourire et partir ensemble. On devrait s'aimer en arrivant et avant de s'en aller. Travaille sous chiffre de nuit. Quand Monsieur Gobeil ferme un œil au fond de son fauteuil, que c'est bien, que c'est bien de voir le soleil penser la même chose. On peut pas tous prendre le même métro, mais on peut penser pareil. Monsieur Gobeil s'en va travailler le matin. Quand Monsieur Gobeil dit bonjour à sa femme, que c'est beau, que c'est beau.
Bonjour, Monsieur Gobeil.
Quand je suis sorti de chez moi ce matin, c'est cette chanson-là que j'avais en tête à cause du soleil. C'était Monsieur Gobeil, Jean-Pierre Ferland.
Ah, quelle belle chanson qu'on trouve sur l'album Soleil, un album qui a suivi Jaune. Alors, allons-y avec le segment de nouvelles canadiennes tirées du courrier de la Nouvelle-Écosse, nouvelle du 9 novembre, déclaration du président de l'APF dans le cadre du premier anniversaire de la Charte de la presse écrite. Nous célébrons cette semaine le premier anniversaire de la Charte de la presse écrite de langue française en situation minoritaire au Canada. L'occasion est tout indiquée pour rappeler l'importance de l'accès à des informations régionales de qualité. Cette charte à laquelle tous les journaux membres de l'APF, l'Association de la presse francophone, et Franco-Presse doivent adhérer prône 5 valeurs fondamentales, l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la rigueur et l'équité. Aussi, elle exige que les journaux membres de l'APF et Franco-Presse s'acquittent des 5 rôles et responsabilités qui suivent, offrir un espace public pour les populations francophones et acadiennes, protéger la démocratie, assurer la libre circulation de l'information, protéger la liberté de presse et le droit à l'information, et servir l'intérêt public. À la fois indépendantes et complémentaires, ces valeurs et responsabilités sont indispensables à une presse écrite de qualité. Déjà en un an, la pertinence de la Charte a été démontrée à plus d'une occasion, autant du point de vue des journaux membres que de la population. La Charte définit des lignes directrices qui encadrent le travail journalistique des membres de l'APF et de Franco-Presse. Elle a été conçue pour veiller à ce qu'ils puissent jouer leur rôle auprès des populations francophones en situation minoritaire au Canada, sans pour autant faire fi de leur responsabilité d'organe de presse à part entière. Et j'ai lu une bonne partie de l'article qui est signé Francis Saunier, président de l'Association de la presse. Journée provinciale de mobilisation le 1er décembre. Déjà 40 manifestations partout en province. C'est dans l'Express, François Bergeron qui signe cet article daté d'hier, 22 novembre. Le samedi 1er décembre sera une journée provinciale de mobilisation des Franco-Ontariens qui demandent au gouvernement provincial de revenir sur ses décisions la semaine dernière, d'éliminer le commissariat aux services en français et d'annuler le projet d'université francophone à Toronto. Déjà, une quarantaine de manifestations sont prévues dans autant d'endroits un peu partout en province, ont indiqué le président Carole Jolin et le directeur général Peter Ominouk de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, lors du lancement officiel de la résistance jeudi à Ottawa. En banlieue nord de Toronto, par exemple, l'Association des francophones de la région de York appelle à manifester le 1er décembre à 13 heures devant le bureau de circonscription de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. D'autres rassemblements sont prévus devant les bureaux des députés réputés francophiles, Gila Marto ou Marta à Richmond Hill et Nathalie Cusandova à Mississauga et bien sûr devant le bureau de comté du premier ministre Doug Ford à Etobicoke. Un lien sur le site Internet de l'AFO permet de trouver la manif la plus près de chez vous. Dans le Moniteur acadien, service de relève pour enfants à besoins spéciaux. Vous êtes tous invités à une soirée d'art le vendredi 30 novembre de 18h à 20h au Centre des arts et de la culture de Dieppe, 331 boulevard Acadie. C'est un événement gratuit. Les enfants talentueux du programme Art pour tous ainsi que leurs frères et sœurs ont créé de magnifiques tableaux d'art de Noël et veulent les partager avec vous. Des cartes de Noël comportant ces œuvres seront aussi mises en vente. 100 % des profits serviront à financer les activités des enfants du programme. Dans le cadre de cet événement, Mathieu Franqueur, artiste local réputé, créera une œuvre d'art en direct qui sera tirée au sort en fin de soirée. Les enfants présents sont invités à prendre part à la création. C'est un événement à ne pas manquer. Je vous rappelle la date, vendredi 30 novembre, à compter de 18 heures.
Thank you.
Milk and Bone, voyage au cœur des déceptions humaines. C'est un article de Sylvie Mousseau et c'est dans le journal Acadie Nouvelle. Écriture imagée, moments d'intimité, dansant ou encore planant, l'univers musical du duo pop électro Milk and Bone explore différentes textures. Les déceptions amoureuses et humaines inspirent profondément ce tandem aux voix uniques. Formé de Camille Poliquin et Laurence Lafont-Bone, le duo débarque dans les provinces maritimes pour la première fois. Après des spectacles à Charlottetown et à Halifax, la formation fait escale à Moncton et à Fredericton en fin de semaine. On vous fait entendre un extrait d'une des chansons de Milk and Bone, le duo qui sera en spectacle à Moncton le 23 novembre, c'est aujourd'hui, et au Capitole Complexe à Fredericton demain. Milk and Bone, la pièce Nevermore. Dans le cadre du Festival des mots LGBTQ Naked Truth, une activité animée par Arnaud Baudry, président du conseil d'administration de Franco Queer, avait pour thème « Queer est un mot français ». Trois auteurs, dont deux franco-ontariens, sont venus lire des extraits de leurs livres respectifs. Pierre-Luc Landry, « Les corps extraterrestres », a lu un extrait inédit d'un recueil de textes écrit cette année et qui n'a pas encore été publié. Amélie Dumoulin, quant à elle, auteure de livres pour adolescents, a fait rire les spectateurs avec la lecture d'un passage de « Fée aime fée ». D'autre part, Sylvie Bérard, professeure de français et d'études autochtones à l'Université Trent, et auteure de « Une sorte de nitescence langoureuse », a fait découvrir au public un extrait de la saga « Dilige », un roman de science-fiction qu'elle a écrit. Au cours de cette discussion, les écrivains ont évoqué la condition des auteurs francophones et de la littérature queer en Ontario, une situation qui peut paraître un peu précaire pour eux. On se retrouve avec peu de visibilité et on est moins audible. Notre voix n'est pas entendue. La majorité de mes collègues ne me lisent pas car ils ne lisent pas en français, confie Sylvie Bérard. Pierre-Luc Landry ajoute « Il y a une seule librairie francophone à Toronto qui peine à exister. Écrire en milieu minoritaire est difficile et le public est réduit. » Pierre-Luc Landry évoque aussi le fait que les gens lisent de moins en moins. Un autre problème de taille. Les initiatives comme cette lecture en français, première du genre au festival Naked Truth, sont toujours les bienvenues et montrent aux anglophones que le français est bien présent en Ontario. C'est une nouvelle tirée du journal Le Métropolitain. Et pour terminer, c'est une nouvelle qui concerne la philatélie. Le club de philatélie de Hawkesbury célèbre son anniversaire de diamant. Le club de Hawkesbury a 60 ans, soit son anniversaire de diamant. Cette année, les membres du club ont reçu quelque chose de mieux que des diamants, un timbre d'anniversaire spécial d'annulation de Poste Canada en l'honneur de l'occasion. C'est une oblitération tout à fait unique, a expliqué Pierre-Yves Séguin, porte-parole du club. Il sera recherché par les collectionneurs de timbres, mais aussi par ceux qui collectionnent les oblitérations. Une oblitération est la marque spéciale qu'une lettre ou un colis reçoit au bureau de poste pour montrer que le timbre est utilisé et pour empêcher toute tentative d'enlever le timbre et, avec un peu de colle, le réutiliser pour une autre lettre ou un autre colis. La marque d'annulation indique le nom du pays et l'État ou la province d'où provient la lettre ou le colis, ainsi que la date de l'annulation. L'oblitération spéciale d'anniversaire de Poste Canada, faite en l'honneur du 60e anniversaire du club de philatélie de Hawkesbury, comprend le nom du club, son emplacement original et la date à laquelle il a été formé. Les membres du club peuvent utiliser l'oblitération spéciale sur toutes les lettres et colis qu'ils envoient cette année. Et selon M. Séguin, il y a beaucoup de collectionneurs de timbres dans le monde qui aiment collectionner les oblitérations réelles parce qu'elles sont difficiles à obtenir. Bon 60e au club de philatélie de Hawkesbury, non Philadelphie.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens avec Hélène Denis.
La lune était en Capricorne et le ciel était noir Cancer. On a attendu qu'il s'endorme pour partir rejoindre la mer. On a pris l'urne par les cornes et sans regarder en arrière, j'ai posé dans la salicorne les cendres de mon père. T'aurais jamais dû partir, j'aurais dû te retenir, Maya. On s'était entendu, pas de cris, pas de pleurs, personne part avant l'heure, Maya. Pourquoi l'avoir rompu, le pacte de sang qu'on a signé adolescent, tous pour eux et droit le vent. Sans toi, sans Diogène, plus d'air, plus de, c'est plus comme avant. Pourquoi tu viens?
Lydia Kepinski et sa chanson Maya.
À Allons-y avec le segment culturel. On fait une critique du film « À tous ceux qui ne me lisent pas ». C'est un film réalisé par Yann Giroux qui met en vedette Martin Dubreuil, Céline Bonnier ainsi que Henri Picard. Et c'est Marc-André Lucier qui en parle, « Les vertus d'un art souterrain ». Il accorde 3,5 étoiles sur 5 à ce drame biographique. Pour son long métrage, son premier long métrage de fiction, Yann Giroux, qui a déjà fait sa marque grâce à ses courts métrages surveillant Lost Paradise Lost, s'est librement inspiré de la vie d'Yves Boisvert, un poète qui l'a marqué dans son adolescence. On ne parle pas ici du journaliste, mais du poète. Ce qui frappe d'abord dans son film est cette volonté de transmettre l'essence d'un art qui peut avoir un écho, même souterrain, auprès d'individus pour qui la vie ne sera plus tout à fait la même, et qui fait naître des vocations de nature artistique. Bien sûr, on aura aussi droit au parcours attendu du poète maudit qui porte son anticonformisme comme une seconde nature plutôt que comme un porte-étendard. Une critique féroce de la société en découle, notamment sur le rôle de l'art, même confidentiel, dans la vie des gens et sa mise en marché. L'éditeur, Dive, qui fait maintenant partie d'une grande maison dont la star est un chef cuisinier populaire, aura d'ailleurs du mal à publier son poulain. Avec le co-scénariste Guillaume Corbeil, Yann Giroux aura eu la belle idée de construire un film dramatique qui arpente plusieurs avenues avec comme fil conducteur la relation amoureuse d'Yves Boisvert avec Diane, Céline Bonnier, impeccable, et le lien qu'il tisse avec Marc, le fils de cette dernière, excellent Henri Picard. Le cinéaste n'aurait pu trouver non plus meilleur interprète que Martin Dubreuil pour incarner le poète. Rarement aura-t-on vu une telle symbiose entre un acteur et son rôle. Sur vos écrans, la série humoristique Léo. Cette série originale du Club Illico est une extension des deux excellentes pièces Cranbourne et Scotstown de Fabien Cloutier qui l'ont fait connaître à ses débuts. Pour cette production de 11 épisodes, Cloutier s'est entouré d'autres auteurs comme Erika Soucy, Claude Lalonde et Steve Laplante et a confié la réalisation à Jean-François Chagnon. Nous retrouvons le personnage de Léo, toujours joué par Fabien Cloutier, mais cette fois dans la quarantaine avec son chum Chabot, interprété par Steve Laplante, dans le village fictif de Walton, au sein de cette Beauce colorée selon sa vision. En pleine crise de la quarantaine, faut-il préciser, puisque Léo, tanné d'être célibataire et un peu à la dérive, tente de se trouver un vrai job et de se caser. On trouve au générique une distribution super intéressante formée de Julien Poulain, Anne Dorval, Marie-Laurence Moreau, Marc Labrèche, Vincent Leclerc et Mario Jean. Le premier épisode est gratuit, mais pour le reste, il faut s'abonner. Série documentaire, c'est sur Netflix. Peu de gens résistent aux vidéos de chiens sur les réseaux sociaux, mais si vous avez envie de quelque chose de plus consistant, c'est Chantal Guy qui écrit cette chronique, cette série documentaire de grande qualité est pour vous. Nous avons plutôt affaire à des histoires d'êtres humains qui ont pour point central un chien. Par exemple, dans le premier épisode, nous voyons une famille dont l'une des enfants est gravement atteinte d'épilepsie, attendre et rencontrer un chien de soutien spécialement formé pour l'aider à prévenir ses crises. Dans le deuxième épisode, c'est un étudiant d'origine syrienne qui a fui la guerre pour s'installer à Berlin, qui tente de ramener en Allemagne son chien toujours à Damas, sous les bombes, avec l'aide de ses amis. Poignant. Alors la série documentaire est sur Netflix et s'intitule « Nos amis les chiens ». Thank you. Maxime Mikhailov, basse du théâtre Bolshoï depuis 31 ans, soliste internationalement réputé qui avait débuté au milieu des années 1990 à Salzbourg sous la direction de Claudio Abbado, est mort jeudi à l'âge de 56 ans. Le communiqué officiel russe ne précise pas les causes de ce soudain décès. Un sapin rouge d'une forêt du nord-est de l'Italie a été installé hier sur la place Saint-Pierre de Rome pour devenir le traditionnel arbre de Noël de ce lieu emblématique du catholicisme. L'arbre s'illuminera avec un éclairage à basse consommation énergétique à partir du 7 décembre. « Pour moi, c'est très drôle car je viens d'Australie où nous fêtons Noël sur la plage », assure Peter, un touriste australien qui se dit très privilégié de voir ce magnifique sapin de Noël. Dan Bigra revient en force en rémission. L'artiste infatigable présente son 28e show du Refuge. Il en a fait du chemin ce show du Refuge depuis sa première édition au Club Soda en 1991. Dan Bigra disait se sentir millionnaire après les 6 000 $ amassés à son premier tour de piste. On comprend donc sa grande fierté d'avoir amassé pas moins $500 000 cette année pour le Refuge des jeunes, qui vient en aide à de jeunes hommes sans-abri et en difficulté de 17 à 25 ans. À peine monté sur scène, le musicien s'est vu offrir une longue ovation debout par une foule conquise. « Attendez donc de voir le show », a-t-il lancé d'un air impassible, faisant fuser les éclats de rire. Dan Bigra a lancé le bal derrière son emblématique piano incliné en chantant « J'entends frapper », chanson de circonstance pour la cause qu'il a choisi d'épouser depuis belle lurette. La prestation de Guylaine Tanguay, qui a livré une interprétation sentie de « Quand on n'a que l'amour », a fait vibrer la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, idem pour le tour de piste d'Émile Proulx-Cloutier, soutenu par le quatuor Quartz, qui a offert une version dépouillée et aérienne de la pièce « Le pas si léger ». C'est bien dans sa diversité que réside toujours le point fort musical de cette grande messe caritative, où les spectateurs ont une rare occasion de voir défiler des artistes aussi variés que Dramatique, René Simard, Elisabeth Blouin-Brathwaite, Yama Laurent, Étienne Cousineau, Marie-Josée Laure. Le pot-pourri des meilleures chansons d'Aretha Franklin a fini par faire bondir les spectateurs de leur siège tout juste avant l'entracte. Après un spectacle pareil, on se croise les doigts pour pouvoir assister à plusieurs autres shows du Refuge avec Dan Bigra et sa gang de chums. Et bonne nouvelle, la série « Demain des hommes » sera adaptée au Canada anglais. CBC a commandé un copier-coller du drame sportif québécois qui sera réalisé par Yves-Christian Fournier, a appris le Journal de Montréal. La première saison de « One Game, One Dream » sera tournée l'été prochain au Québec. Quelques scènes d'extérieur seront toutefois filmées en Colombie-Britannique puisque l'action sera articulée autour d'une équipe de hockey junior de l'Ouest canadien. Le potentiel international, j'y ai toujours cru, dit le producteur Richard Goudreau. Lancé en avril sur Ici Tout TV Extra, la première saison de Demain des hommes a rallié une moyenne de 695 000 téléspectateurs cet automne, selon Numéris. Non, il me reste une petite nouvelle, mon cher Mathieu. Je sais que vous avez hâte de nous faire découvrir cette nouvelle chanson, mais je voulais juste vous en parler avant. Fan de M, réjouissez-vous. Même si le chanteur français avait participé à de nombreux projets depuis quelques années, une tournée avec les membres de sa famille, une participation à l'excellent disque L'Amour Mali avec les chanteurs maliens Toumani, Sidiki Diabaté et Fatouma Diawara, sorti l'an dernier, il n'avait pas sorti de disque solo depuis 2012. C'est donc un grand plaisir de savoir que Mathieu Chédid sera de retour le 25 janvier avec L'être infini, son 6e album en carrière. Pour nous faire patienter, il vient de lancer une première chanson, Super Chérie. C'est celle-là qu'on va entendre, coproduite par le Daft Punk Thomas ou Thomas Bangalter. On y reconnaît la touche disco irrésistible du duo électro-français qui sied particulièrement bien à la voix au perché du chanteur, écrit José Lapointe dans la presse. La suite, donc, en janvier. Mais pour tout de suite, on écoute cette nouvelle chanson Super Chérie pour nous mettre dans l'ambiance de ce week-end.
Me monte, m'amuse et me hante. Elle est toujours elle-même, c'est bien pour ça que je l'aime.
Super chérie, super chérie, super chérie.
Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes, je suis pas beau.
Mathieu Chédid, que j'avais effectivement très hâte de faire jouer, la chanson Super Chérie.
Super Chérie, c'est le premier extrait d'un album qu'on attend avec beaucoup d'impatience, qui sortira en janvier 2019, qui s'en vient dans 2 mois. Ça va passer vite, 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 comme d'habitude. Alors, quelques suggestions sorties pour le week-end. Ce soir, 20h à l'Entrepôt de la Chine, on pourra entendre Ludovic Bourgeois, qui va interpréter des chansons extraites de son premier album, et des titres qui lui ont permis de remporter la voix. C'est donc à la Chine. Pour plus de détails, vous pouvez faire lachine.tuxedobillet.com. Si vous aimez les jeux de société, il y a un salon du jeu de société de Montréal qui se déroule demain et dimanche de 10h à 17h. C'est au marché Bon Secours. Les amateurs s'en donneront à cœur joie. On achète son billet sur le site Eventbrite. C'est gratuit pour les enfants et de 10 à 15 pour les adultes. Et dans le Journal de Montréal, c'est Daniel Choquette qui nous dit de prendre de l'avance. Pensez à réserver des billets pour les concerts offerts à la Chapelle du Bon Pasteur, le Piano français, le jeudi 29 novembre, Beethoven intégrale des Délices, c'est le 2 décembre, et Autour de Shakespeare, le 9 décembre, et bien d'autres. Tarif 2 $, alors un prix d'amis. Accèsculture.com pour tous les détails. Frontières, migration, territoire, identité, autant de sujets qui divisent et rassemblent tout à la fois. Pour prendre le temps de réfléchir à ces thèmes et aux gens qui les impliquent, la Maison de la Syrie et le projet Réfugiés et déplacés accueillent des chercheurs, des penseurs et des artistes venus d'ailleurs au Canada, des États-Unis et de la France, et d'aussi loin que la Syrie, pour le colloque « Affranchir la frontière ». AF est écrit entre parenthèses, donc ça donne aussi « Franchir la frontière ». Pour les deux derniers jours de discussion, il y a notamment au programme la traversée des frontières et le statut d'apatride aujourd'hui, de même que le tragique migratoire dans la littérature et l'expression de personnes récemment immigrées demain. Vendredi, dès 10h30 à l'Université de Montréal, c'est commencé, mais vous pouvez vous prendre demain à compter de 11h30 à la Maison de la Syrie. Entrée libre. Je vous en ai parlé hier, mais je vous réinvite puisque le gala Humour aveugle se tient ce soir ainsi que demain à compter de 20h. Depuis 2004, les humoristes font front commun pour récolter des fonds au profit de la Fondation des aveugles du Québec. Cette année, Mathieu Cyr animera le 33e gala Humour aveugle et sera accompagné de ses collègues Dominique et Martin, Martin Petit, Alexandre Barrette, Mario Tessier, Mike Ward, Guillaume Wagner, Étienne Dano et plusieurs autres qui vont se succéder sur scène pendant près de 4 heures. Le spectacle se déroulera sur le thème de Pink Floyd, gala humour aveugle. Ça se passe au Théâtre Saint-Denis. Si vous êtes le moindrement sensible à la poésie, ce spectacle que Tire le Coyote promène partout depuis la sortie de son album Désherbage il y a un an est pour vous. Vous ne pourrez résister à cette écriture fine, remplie d'images fortes, à cette voix si particulière qui véhicule une infinité d'émotions. À ce folk contemporain et planant, le chanteur a d'ailleurs emporté le Félix de l'album folk à la disque il y a quelques semaines. Et en première partie, Émilie Klepper présentera les formidables chansons de son premier disque en français. Tire le Coyote, c'est au National, quand? Demain soir, 24 novembre. Parlons donc beauté. Remettre sa peau à neuf, ah, le temps des fêtes, qu'on le veuille ou non, on y arrive souvent essoufflé, les cheveux en bataille, le teint terne et les yeux cernés. Question de prendre aussi un peu de temps pour vous. Notre journaliste Iris Gagnon-Paradis vous présente chaque semaine une astuce beauté essayée pour une mine revitalisée. C'est dans la section pause de la presse d'aujourd'hui. Le changement de saison n'aidant pas, votre peau est en proie à la sécheresse, aux irritations et à d'autres imperfections pas du tout bienvenues. Afin de commencer la saison hivernale du bon pied et d'offrir votre meilleure mine durant le temps des fêtes, un soin permettant à la fois d'exfolier la peau en profondeur pour la débarrasser de toutes les petites peaux mortes incrustées et de l'hydrater généreusement est à recommander. Notre choix, le soin combo de micro-infusion offert par Dermapur. Nous avons vraiment été emballés par l'efficacité de ce soin très complet qui combine l'exfoliation de type micro-dermabrasion à l'infusion à l'oxygène. La première permet une exfoliation vraiment efficace grâce à un appareil à la suction légère dont l'embout est couvert de cristaux de diamant. Projeté sur la peau, il permet de retirer les cellules mortes et de décongestionner les pores. Au bout du compte, la peau est finement nettoyée et vraiment très douce. Un soin qui est idéal pour les changements de saison et qui n'est pas trop agressif pour les peaux sensibles, écrit Iris Gagnon-Paradis. L'infusion à l'oxygène en fin de traitement, qui compte également un nettoyage préliminaire de la peau, de l'extraction de points noirs au besoin, et un masque apaisant à l'argile, vient donner une bonne dose d'hydratation à la peau grâce à un sérum infusé à de l'oxygène choisi selon les besoins de la peau. La formule distribuée sur la peau avec un appareil à pression légère procure une sensation de fraîcheur et laisse la peau visiblement repulpée. Un très beau cadeau à se faire à soi de soi. Ou Mathieu, si vous voulez me l'offrir, c'est 248 $ offerts dans les cliniques Dermapur. Et José Blanchette a aimé l'essai « Rétablir la santé » d'Héléna Bureau, Geneviève Dorval-Douville et Jean-François Gingras, un livre essentiel pour saisir les rouages de notre système de santé, dont 70 % du budget est dévolu à des maladies chroniques qui affligent 50 % de la population. Or, ces maladies pourraient non seulement être prévenues, mais guéries à l'extérieur des murs de l'hôpital, à la maison. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable fin de semaine, déjà la dernière de novembre. Et demain, ce sera la fête d'une de mes sœurs. Bon anniversaire, Marie-Andrée. Et puis, ici Hélène Denis qui vous souhaite un beau week-end. Merci Mathieu Tessier, vous reviendrez. On n'est pas sorteux. Merci pour la mise en onde et